again. What happened to my dreams and my spirit? Used to keep me up, now I can't hear it. Now I'm feeling stuck, worried, and timid. Call it bad luck, I just wanna send it away. More oxygen, please. I just wanna breathe. Yeah, I said more oxygen, please.
Radio G. 101.5 FM.
Il est tout juste 20h et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. On va parler foot avec notamment Messi et la Ligue 1, mais aussi surtout de la fin de ces Jeux Olympiques. On se retrouve tout de suite après le générique. Et bonjour à tous, chers auditeurs de Radio G, pour votre émission sportive du mardi soir. On va donc commencer cette émission en vous signalant qu'effectivement nous ne sommes pas au complet toujours, puisque Max n'est pas là ce soir, il travaille. Mais Cédric est bien là, il est à la régie. Bonjour à toi Cédric.
Salut à tous.
Effectivement, on a un programme chargé aujourd'hui, Cédric. On a notamment un gros événement sur la planète foot qui est arrivé donc aujourd'hui pile. C'est parfait pour notre émission et pour en parler. Et puis surtout, on va débriefer également longuement ces fameux Jeux Olympiques qu'on a suivis vraiment avec beaucoup d'importance. On va donc commencer avec cette bombe qui est arrivée courant de la semaine dernière. On a eu vraiment un sentiment de quelque chose d'exceptionnel qui se passe avec un des transferts les plus incroyables du monde. Et évidemment, c'est arrivé de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Ça a été quasiment officialisé aujourd'hui, on peut le dire. L'Argentin qui s'est déplacé à Paris. Après, on le sait, beaucoup
c'est
de...
C'est quasiment fait, on va dire.
Voilà, c'est quasiment fait. Il est à Paris. On l'a vu arriver notamment à l'aéroport... je crois que c'était au Bourget.
Oui,
et effectivement, voilà une grosse attente autour de l'Argentin qui va pouvoir composer une merveilleuse attaque sur le flanc de l'attaque du PSG. C'est quelque chose d'exceptionnel, Cédric.
Ouais. Il faut peut-être aussi rappeler pourquoi on en est arrivé là, quand même. Mm-hmm. Puisque tout parle en fait d'une réforme en Espagne au niveau du salary cap. Donc, c'est-à-dire, dans un club, je crois que ça comporte aussi bien les joueurs que les membres du staff, que les gens qui sont dans le bureau, enfin, que tout ce qui fait partie, en fait, de l'identité du club. Il y a un salaire maximum à respecter. C'est des mesures qui ont été prises dans tous les clubs espagnols, et on voit aussi que le Real commençait déjà aussi à paniquer là-dessus. D'où certains transferts
également
et certains joueurs qui en ont profité pour partir librement, voilà.
Exact. Ça concerne également le PSG. Hein.
On a encore le temps puisque c'est, je crois, dans 2 ans que ça va être appliqué en France.
Non, je veux dire par rapport à. J'imagine que tu parlais de Ramos.
Oui. Il y a Ramos, oui. Du coup, c'est.
C'est ça. Je parle de.
Oui. Tu parlais en termes de salary cap.
Non.
Puisque ça va arriver aussi.
D'un transfert d'une importance.
Oui, le transfert d'une importance. Oui.
De ce calibre-là, avec donc une légende du club qui part, qui part librement au PSG. Effectivement, on peut voir ces points de ressemblance entre le transfert de Lionel Messi et celui de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. C'est vraiment inattendu ce transfert.
Oui, bah oui, c'est lié à cette situation, puisque du coup le Real, même en réduisant
le Barça,
le Real aussi, je pense que ça, oui, ça a dû être le même souci, je pense, pour Ramos. Pour le Barça, c'est que même si Messi baissait son salaire comme c'était prévu, c'était toujours trop élevé. Mm-hmm. Donc c'est dimanche, je crois, qu'on a appris, que ou samedi soir en tout cas, que le Barça libérait Messi de.
Effectivement. C'était une
de toute
grosse
obligation de re-signer, quoi.
C'est ça. Ça a été une grosse bombe sur les réseaux sociaux, notamment. Messi, qui donc n'a pas pu prolonger son contrat. C'était un commun accord entre Messi et le Barça. En tout cas, le Barça lui a annoncé, je crois, du coup, c'est effectivement le week-end dernier que le Barça a annoncé à Lionel Messi que tout simplement il ne pouvait pas proposer une offre suffisamment importante pour que l'Argentin reste au club. Mais effectivement, voilà, on a surtout cette impression que Messi n'a pas pu signer pour cause de manque d'argent du côté du FC Barcelone, et je pense que c'est un point intéressant.
Bah, c'est surtout que ça, quelque part, j'ai envie de dire, il était temps que ce genre de choses arrive. Mm-hmm. C'est que ça montre que l'économie du foot espagnol, elle est bancale depuis des années. Et c'est ces deux têtes d'affiche qui tombent en premier, et c'est tout à fait logique. Hein.
Ouais.
Quand on sait que le Real a été renfloué par le roi d'Espagne lui-même à une époque, le Real a tendance à avoir en fait de l'argent qui rentre, mais ils investissent plus dans la pierre au final, donc forcément ça coûte. Et ce qui fait que après, en termes de salaire, à partir du moment où on impose un maximum, c'est vrai que ça pose problème. De la part du Barça, il aurait fallu qu'ils dégraissent, et ils ont fait un choix qui est
justement d'engraisser, on va dire.
Voilà, oui.
Ils ont recruté des éléments encore offensifs, alors qu'ils en avaient pléthore avant.
Et donc, du coup, il fallait forcément soit vendre un maximum. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que il n'y a pas eu forcément d'offres autour des joueurs du Barça. Il y avait eu la rumeur Griezmann transféré,
ouais, à l'Atlético.
À l'Atlético notamment. Oui. Je pense que du coup, ça va être compromis.
D'ailleurs, je crois même c'est sûr que ça se fera pas.
Normalement, non, du coup, sinon ça va poser.
En même temps, avec le départ de Messi, c'est compréhensible.
Il y a une charge du coup qui va s'enlever, mais bon, dans la manière de faire, c'est vrai que le Barça, pour un historique, a pas été très classe, quoi. Ils le savaient que ça allait être compliqué, et en fait, ils ont joué la montre, et c'est vrai que même à partir du moment où on a su qu'il était libre officiellement. Ouais.
Déjà, c'était déjà une grosse information. Même si on s'attendait.
On avait un doute quand même que ce ne soit pas un coup de bluff.
Bien sûr, pour le refaire prolonger.
Parce que bon, Messi l'a quand même souvent fait, ce coup de dire je pars.
Et pour finalement.
Pour rester et pour augmenter son salaire. Bon, là, je ne pense pas que ça ait été une augmentation de salaire, mais.
Il y avait eu notamment quelque chose sur Messi qui était souvent dit, c'était que comme lui-même était attaché à ce club, notamment à cette institution, que c'était notamment lui qui avait notamment vécu les grosses années du Barça, beaucoup de gens ont dit alors pourquoi lui-même ne descend pas son salaire, et après tout l'argent qu'il a amassé tout au long de sa carrière, pourquoi il ne descend pas son salaire? Évidemment, c'est une autre question à se poser, même si c'est vrai que quand on est une star internationale comme Lionel Messi, c'est vrai qu'on peut pas être payé entre guillemets au rabais par rapport à ce qu'on rapporte, en tout cas un club comme le FC Barcelone.
En fait, oui, parce que j'ai vu des tableaux qui expliquaient un peu la chose, c'est que son salaire était élevé, mais était largement compensé en fait par les ventes annexes,
bien sûr.
Tout ce qui était maillot. Ça, donc
c'est une légende du football, et forcément ça rapporte de l'argent.
Quand on sait, par exemple, les tournées en Asie rapportent énormément à ces clubs-là. Hein.
Mais voilà, c'est avec Cristiano Ronaldo, c'est le plus grand footballeur actuellement du monde. En tout cas, enfin voilà, on va pas revenir sur ce débat, mais en tout cas, le plus connu
en termes de bankable, voilà, oui,
de marketing, c'est le plus connu. On ne va pas avoir ce débat sur
Neymar pourtant qui a une bonne aura.
Bien sûr, Messi est devant depuis des années. Voilà,
les deux sont largement au-dessus. Ouais.
En termes de
cote, c'est vrai que du coup, au-delà du sportif, pour Paris, ça va être banco, quoi.
Ah bah là, déjà, c'était un gros coup de prendre Mbappé et Neymar dans le même mercato il y a 4 ans.
Ouais.
Là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable de voir débarquer Messi au PSG. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que, surtout, Messi est un joueur qu'on voyait mal revertir, en tout cas un autre maillot que celui du Barça. On l'a toujours identifié comme un joueur du Barça. On pensait tous qu'il allait terminer sa carrière à Barcelone. Et avec donc notamment des difficultés financières du Barça, auxquelles on ne s'attendait peut-être pas avant justement, je pense, le Covid. Peut-être qu'on pourra en reparler, mais ça a causé peut-être cette baisse de rentrée d'argent pour le Barça.
Ça y a joué, vraiment.
Bien sûr, ça y a joué, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, en tout cas, à voir Messi un jour avec le maillot d'un autre club que le Barça, et encore plus pour nous Français au Paris Saint-Germain. Et voilà, ça s'est fait. Je crois qu'il y a Iniesta qui a réagi ce soir et qui a dit qu'il était donc très triste, que ça allait lui faire bizarre de voir son grand pote Messi avec un autre maillot que celui du Barça.
Surtout que voilà, il y a certains joueurs qui ont signé au Barça pour jouer avec.
Ouais, c'est ça. Notamment un certain Sergio Agüero.
Agüero, voilà, oui.
Ils sont vraiment amis très proches. Je crois que Agüero est le parrain du fils de Messi.
C'est ça,
le parrain du fils de Messi. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez très important. Et au final, voilà, la venue d'Agüero, en tout cas, ne sera pas, entre guillemets, récompensée par le fait de jouer avec son pote.
Il y avait des rumeurs comme quoi il voulait déjà partir. Hein, donc, ce qui prouve.
Ouais, il a été très mécontent du départ de
Messi. Depuis, lui, de son côté, a démenti, mais bon. Quand on dit viens au club, t'es sûr de jouer avec Messi,
ouais,
et que ça a été apparemment quand même l'argument pour le faire
bien
venir,
sûr.
Je peux comprendre derrière que t'as une petite rancœur. Après, voilà, tu joues pas non plus parce qu'il y a un top star dans ton équipe, tu joues parce que t'as envie de jouer aussi.
T'as des qualités, etc.
Voilà, ou sinon, s'il venait juste pour le salaire, c'est ça qui est dommage, quoi.
Mais est-ce que du coup, ça débloquerait pas une place pour Antoine Griezmann, pour Ousmane Dembélé ou Depay, pour exploser au sein d'un collectif qui, du coup, va chercher un nouveau leader offensif. C'est vrai que les grosses recrues offensives ces derniers temps au Barça étaient des échecs parce que le jeu tournait autour de Messi et que c'était le titulaire indiscutable. Je pense que ça peut aussi libérer une place pour ces joueurs-là qui ont été recrutés cher. Je sais pas ce que t'en penses.
On peut retrouver un Griezmann plus en meneur de jeu, un peu comme en équipe de France ou même quand il jouait
en faux neuf,
à l'Atlético. Je pense que ça, même pour lui, ça lui ferait du bien de
prendre un nouveau statut.
Ce statut-là. Dembélé, le problème, c'est sa fragilité.
Bien sûr, toujours.
Mais pourquoi pas, quoi.
Depay, Agüero, d'autres noms.
Depay, il va falloir qu'il s'adapte au championnat.
Bien sûr. Il a fait des bons matchs amicaux, mais effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner.
Voilà, donc disons que ça ouvre des portes.
Ouais. Va falloir que.
Après, le mercato est loin d'être fini.
Ouais, déjà.
Les finances du club sont peut-être loin d'être sûres. Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir dégraisser encore certains gros salaires ou même peut-être des salaires intermédiaires qui sont peut-être plus faciles à vendre ou faire des prêts, mais qui pourraient être une grosse perte, ça reste à voir. Mais oui, du coup, son départ, forcément, ça va changer tout un système. Hein, ça paraît logique. Après, le problème, c'est que est-ce que c'est pas l'extra sportif qui va encore poser des soucis à l'équipe? On sait comment sont les sociaux, ça. Je pense que là, ils vont l'avoir bien en travers de la gorge, ce départ.
Beaucoup.
Il n'y a pas eu un départ en.
En plus, ouais, un fanfare avec
du public. Ça aurait pu très bien être fait.
C'est vrai que c'est toujours mieux de voir des gens du club partir avec l'innovation en sortant du stade.
Donc, je pense que à la moindre petite erreur, petit match perdu.
Ça va gueuler.
Ça risque de s'enflammer.
Effectivement.
Normalement, je crois plus qu'il y a d'élection pour le poste.
Du
président
coup,
du club,
c'est la Porta toujours.
Ça avait été fait.
Ça a été fait.
Ça a été fait en anticipé, voilà, ouais.
C'était du coup, c'est la Porta qui est toujours le président, enfin qui a remplacé Bartomeu à la tête du Barça.
Je pense que voilà, il est quelque part, il a eu chaud que les élections soient
faites
largement avant.
Mais effectivement, ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et également, mais du côté du PSG, est-ce que là, au PSG, on est dans l'obligation de gagner cette Ligue des Champions? Est-ce qu'on voit un autre favori que le PSG, même si effectivement l'effectif veut pas tout dire non plus, mais là, on voit mal comment il pourrait perdre un match avec une équipe comme ça.
Ça va. La réponse, ça va être simple. C'est comment ils vont gérer les égos. S'ils n'arrivent pas à gérer les égos dans les vestiaires, tu pourras avoir eu Messi, tu pourras avoir eu
Mbappé, Neymar.
Limite mettre le 11 mondial
c'est ça.
Sur le terrain, je crois que ça passera pas.
Il faut un équilibre.
C'est ça. Il y a quand même des joueurs qui ont été recrutés. On sait que par exemple Picardie, ça n'a jamais été les grands amours avec Messi.
C'est vrai.
Puis là, avec l'arrivée de Messi, ça veut dire peut-être moins de temps de jeu encore pour lui.
C'est un autre sujet. Hein,
par exemple, Di Maria aussi, qui peut sûrement en pâtir.
Sarabia qui a fait un bon euro et qui va à coup sûr cirer le
voilà,
banc cette année.
Ça va remettre en cause beaucoup de choses. Donc il va falloir gérer ces égos-là. Il va falloir gérer les caprices de star. Parce que, et puis il y a encore un dossier. On a jusqu'au 31 août, minuit, enfin 1er septembre, minuit, pour être sûr ou pas, mais il y a le cas Mbappé.
Ouais.
Quelque part, si Mbappé part,
ça
libère plus de place pour le groupe, pour faire jouer. Mais s'il reste, va falloir combler toutes les envies des uns des autres. Messi est peut-être dans les trois stars du club, celui qui sera peut-être le plus simple à gérer, parce que on l'a vu avec Barcelone, s'il faut faire un match de 30 minutes, il le fera. S'il faut faire un match de repos, il le fera. Je pense qu'il peut appeler peut-être ce côté stable dans la mentalité pour le club.
Ouais.
Mais par contre, à Mbappé, qui a quand même un ego un peu démesuré par moment, voire quasiment sur toute une saison, est-ce qu'il va pas vouloir se mettre en tête d'être meilleur que lui et qu'on va se retrouver à le voir un peu comme il a fait en Coupe d'Europe, faire des rushs pour rien, enfin.
Ouais, effectivement, ça sera un truc à voir.
Donc,
effectivement.
C'est pour ça, la pente de Messi, ça peut apporter de la seniorité au groupe, tout par comme son expérience, comme ça peut recréer des.
Après,
des
c'est tensions. Vrai que par contre, il y a un autre point intéressant, c'est que la communauté sud-américaine est très présente dans ce vestiaire du PSG avec donc Paredes, Di Maria et donc Icardi, même si les deux ne s'entendent pas. Effectivement, on a un Messi qui va, je pense, s'alimenter rapidement en groupe. Il connaît pas mal de joueurs, et puis surtout Neymar, qui est son grand copain.
Normalement,
ça devrait le faire au niveau
de
l'intégration.
Ça devrait revenir en termes de.
Même et puis
de...
au football, Messi, honnêtement, il n'est pas très difficile. Hein. C'est quelqu'un de, on va dire, tout le temps quasiment bon. Quoi. Il est quasiment tout le temps bon, donc il y aura, au niveau du jeu, il n'y aura pas trop d'adaptation à faire du côté de Lionel Messi. Et même dans les années où il a un peu plus galéré, récentes, il a toujours fait des actions incroyables et il a toujours su remonter son équipe. Mais voilà, effectivement, c'est un sujet qui va être assez intéressant à voir. Et également pour Mbappé, moi je me dis quelque part que si Messi reste encore 2-3 ans au PSG, sachant que Neymar a déjà prolongé, il n'est pas impossible pour moi que Mbappé veuille rester cette année pour jouer avec Messi.
De toute façon, normalement, il a son année sur Mbappé.
Oui, bien sûr. Et que, pour moi, je pense qu'il va rester pour profiter avec Messi. Et qu'après, il partira libre, sûrement au Real Madrid. Et je pense pas que ce sera effectivement un gros coup dur pour le PSG quand tu sais que tu as Neymar, et Messi qui sont dans ton équipe. Donc voilà, ça peut être également un point intéressant sur le cas Mbappé. Mais on sait qu'en tout cas, ça peut le faire rester pour cette dernière année. Peut-être pas le faire prolonger, mais pour cette dernière année, il y avait des doutes encore là-dessus. Mais quand on voit l'effectif de star qu'a le PSG, c'est déjà assez impressionnant.
Après, par rapport à ses chances pour rester, c'était des clauses qu'il avait plus ou moins mis, c'est de jouer, enfin d'avoir des grands joueurs dans l'équipe. Donc c'est vrai que
et d'avoir de l'ambition.
Voilà, là, je pense que quelque part ils l'ont fait. En tout cas, tout va dépendre aussi du groupe. Hein. Le tirage au sort va déterminer. Parce que si tu tombes sur un groupe de la mort, tu peux même y passer des poules. Donc, à voir. Après, pareil, il va falloir qu'il s'adapte au championnat. Mmh. Et là, c'est peut-être la chose qui va me faire un petit peu peur. D'aussi bien de. En termes d'arbitrage ou même de comportement des défenses, joueurs, voilà.
On sait que Neymar et Zlatan n'ont pas tellement apprécié ces points-là, quoi.
Et là, je me dis, est-ce qu'il y en a qui vont pas essayer de vouloir tailler Messi, soit de tailler Messi pour se faire un nom
C'est vraiment le risque à prendre. Hein.
Donc, je pense qu'on aura des fois
des scènes un peu
rocambolesques. Des tacles qui vont être bien appuyés, des choses comme ça.
C'est sûr et certain.
Bon, après, je pense qu'il a eu l'habitude quand même en Espagne. Hein, mais c'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau championnat, c'est toujours.
Toujours plus compliqué.
C'est plus au niveau de l'arbitrage où il y a des choses qui vont être sifflées, d'autres pas. Et est-ce que les arbitres vont pas aussi être. Plus que gentil avec lui parce que c'est la star du championnat, c'est des choses qu'il va falloir
Suivre de près.
Ouais.
On va donc enchaîner tout de suite, on va parler encore un petit peu de la Ligue 1 avec cette première journée qui s'est disputée ce week-end. Voilà, il y a eu plusieurs résultats importants, notamment ce match nul d'ouverture entre Monaco et Nantes. Monaco qui se construit un très bel effectif, mais qui donc a calé pour cette première face au FC Nantes. À Louis II, ce sont les Monégasques qui ont ouvert le score avec le but de Jason Martins, et c'est Castelletto, le défenseur nantais, qui a égalisé à un partout. Le lendemain, la Ligue 1 donc effectivement continuait avec un match entre Lyon et Brest. Là encore, un cadre de championnat qui a fait match nul un partout. C'était Irvine Cardona qui avait ouvert le score avant que Islam Slimani n'égalise pour les Lyonnais. Et puis la victoire d'un cadre, c'était le samedi soir avec la victoire du PSG 2-1 face à 3, donc un but notamment de la recrue Hakimi, également de l'Argentin Icardi, qui on le disait peut être mis sur le banc cette année, mais en tout cas qui a marqué après l'ouverture du score 3-1 par l'intermédiaire de El Hajam. Et puis le dimanche, on a eu 7 matchs avec notamment un match nul entre Rennes et Lens, un partout. Un match nul également entre Nice et Reims, 0-0. Clermont est le nouveau leader du championnat, on peut en parler, avec donc sa victoire 2-0 contre Bordeaux grâce au but de Bayo et Dossou. Voilà le promu clermontois qui est le premier leader de cette Ligue 1 2021-2022. Saint-Etienne a fait un partout contre Lorient à domicile avec donc un premier but de Le Goff pour les Bretons et un but de Cazeri pour les Stéphanois. Et puis on va parler du SCO avec cette victoire 2-0 qui propulse donc les Angevins à la deuxième place au classement. Un but de Ismaël Traoré juste avant l'heure de jeu, et puis Bauken en fin de match. Une victoire 2-0 qui est de très bon augure pour la suite, la première sous l'ère Baticle. Donc voilà, peut-être qu'on pourra en parler avant de finir sur les résultats. Donc Metz a également accroché le nul face à Lille, le champion de France, qui a buté donc face aux Messins. Les buteurs du côté Messin, c'est donc Santonze par deux fois et Udol. Et puis du côté lillois, des buts de Botman, Iconé et Yilmaz, bien aidé par la boulette d'Okidja. Et puis Marseille s'est fait peur, mais a finalement brillé avec cette victoire 3-2. Les Montpelliérains qui gagnaient 2-0 grâce au contre-son-camp de Pérez et au but de Laborde. Et puis enfin, les Marseillais se sont réveillés grâce à Under et au doublé de Payet qui permettent donc aux Marseillais d'accrocher leur première victoire. Donc je parlais du SCO. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images de ce match, Cédric, mais effectivement, c'est une victoire de bon augure pour la suite.
Oui, bah, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière avec Max, c'est vrai que bon, c'est encore trop tôt pour tirer vraiment des conclusions, mais c'est vrai que en tout cas contre, on va dire, un adversaire direct, parce que je pense que cette année ça va être un adversaire direct, Strasbourg. Mmh. Déjà, il faut rappeler que cette saison, elle a une saveur particulière, puisque c'est la dernière saison à 20 clubs.
Donc, oui, effectivement.
Donc, il y aura les 4 dernières places qui vont être importantes pour les descentes. Mmh. Donc, c'est vrai que autant faire une bonne entame de saison. Donc, ouais, le 2-0 est plutôt intéressant dans cette optique-là. Surtout qu'on a un deuxième match qui, je pense que la mission, ça va être d'aller chercher le nul, quoi, minimum. Mm. Puisque ça va être contre Lyon. Lyon qui sera quelque part pour un démarrage. Je pense que Lyon, pareil, ne peut pas trop se permettre, en vue d'aller chercher l'Europe, de perdre des points. Donc, je pense que dès la deuxième journée, on va avoir des affiches déjà avec des enjeux importants. Ouais.
Et notamment donc Angers-Lyon, qui sera donc à suivre dès dimanche à 13h. Donc ce sera déjà une belle affiche pour les Angevins qui pourront se mesurer à un cadre du championnat.
Première réception en plus.
Effectivement.
À domicile.
À Raymond Kopa avec le retour des supporters.
Oui, après,
qui fait plaisir,
après la crise qui a été plus ou moins gérée.
Effectivement. Par le SCO. On va passer
On peut peut-être expliquer pourquoi le SCO aussi est second et non premier ex-aequo.
Bah vas-y, explique.
Puisque donc il y a eu une victoire et en termes de but, c'était une égalité. Sauf que le SCO a pris un carton jaune et c'est pour ça en fait qu'il se retrouve deuxième. Mm-hmm. Comme quoi ça peut avoir son importance en fin de saison en fait pour une place.
Effectivement.
Le nombre de cartons qu'on reçoit.
Effectivement, donc une information importante. On va donc marquer une pause musicale. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Cédric ?
On va écouter un classique, Nirvana, le morceau The Man Who Sold the World, la version issue du concert MTV Unplugged. We'll be right back.
de retour dans les studios de Radio G pour la suite de votre émission Génération Sport. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur www.radio-g.fr. On est donc de retour avec Cédric pour vous parler des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 qui sont donc terminés dimanche dernier par donc cette fameuse cérémonie de clôture. À noter que le porte-drapeau français, c'était un karatéka, c'était donc Steven Dacosta qui avait remporté notamment la médaille d'or quelques jours plus tôt. Effectivement, il y a également eu la fête, on peut le dire, au Trocadéro devant la Tour Eiffel avec toutes les équipes et tous les médaillés qui étaient là.
Quasiment avec juste tous. Un petit couac.
Comment ?
Avec juste un tout petit couac.
Ah oui, couac. Un tout petit couac, parce que du coup, ils en avaient beaucoup parlé avant cette fameuse cérémonie de clôture. Le fameux drapeau qui était donc... Enfin, ils en parlaient comme le plus grand drapeau du monde.
Ce qui fait la taille d'un terrain de foot.
Effectivement, la taille d'un terrain de foot. Et au final, à cause des conditions météo, pas de drapeau. Et tout ça pour rien. Alors qu'il y avait quand même des moyens techniques déployés depuis des mois, on va dire.
On espère qu'ils vont pouvoir quand même les déployer régulièrement. Ouais,
parce que là,
pendant 3 ans, ça va faire cher l'investissement. Dès qu'il y a un peu de vent.
C'est vrai que là, ça a été assez bizarre. Moi, je m'attendais, justement, j'en avais entendu parler. Je m'étais dit, ça va être super, on va voir ce que ça donne. Et au final, bon, c'était pas non plus...
Quand j'ai vu, j'ai fait... je crois qu'il est virtuel, le drapeau.
Ah oui, oui.
Et ça se voyait tellement.
Effectivement, donc, ce drapeau qui n'a pas pu se dresser. On parlera peut-être plus tard, évidemment, des Jeux pour 2024. On va parler donc des Jeux 2021 avec le bilan français. Je vais vous citer toutes les médailles des Français donc dans ces JO. On va commencer évidemment avec les médailles d'or. On a eu pas mal de beaux titres, un peu inespéré. On va commencer donc avec l'aviron, la victoire de Boucheron et de Androdias en deux de couple hommes. On a eu 2 médailles d'or en escrime avec notamment cette surprise de Romain Canan qui s'est imposé dans le tournoi des épées. Et puis également le fleuret par équipe homme qui s'est imposé avec donc notamment Lefort, Poti, Mertine ou encore Le Péchou qui ont remporté donc cette médaille d'or. En balle, c'est très simple, les hommes et les femmes sont titrés champions olympiques. Voilà, c'était une très grosse performance pour souligner un peu plus la domination du handball français sur le monde, on va le dire. Et puis évidemment judo, ça a été l'un des gros succès, l'une des grosses satisfactions de ces jeux, le judo français qui était vraiment impressionnant avec notamment la victoire de Clarisse Agbenienou en moins de 63 kilos femmes. Et surtout, en fin de semaine, on a eu droit à la très belle victoire par équipe mixte des Français, donc emmenée par notamment Reiner, Clerget, Dico, Pino, Idir, Bouchard, Chen, Le Blouc, Malonga, Agbenienou ou encore Sizik. Voilà, des Français qui avaient pour certains déjà remporté des médailles et qui donc reviennent en France avec 2 breloques. Et puis également donc en art martial, on a eu le titre de Steven Dacosta, je le disais tout à l'heure, en karaté. En tir, le Français Jean Kikampoix, a remporté le pistolet vitesse homme. Et puis également une médaille d'or, il faut le dire également, en volley avec cette victoire de l'équipe de France pour la dernière compétition de Laurent Tilly. En médaille d'argent, on a eu l'unique médaille qu'on a eu en athlétisme avec ce titre de vice-champion olympique pour Kevin Mayer. En aviron, on a eu également Beauvais et Tarantola en deux de couple poids léger femmes. Au niveau du basket, effectivement, les hommes sont arrivés à la deuxième place après cette défaite contre les États-Unis. En escrime, on a eu 2 victoires par équipe chez les femmes, en fleuret et en sabre. Du côté des fleurets, on a eu donc comme médaillés Blaze, Guyard, Tibus et Ranvier. Et du côté du sabre, on a eu Balzer, Brunet, Berder et Lembach. Et puis du côté du judo, on a eu également 3 médailles d'argent avec Bouchard, Sizik et Malonga. En natation également, la seule médaille de la natation française avec Florent Manodou en 50 mètres nage libre. le rugby à 7 féminin qui a donc pareil échoué en finale face à la Nouvelle-Zélande et qui a donc décroché cette médaille d'argent. Et puis du côté de la voile, on a eu donc une médaille donc d'argent chez les hommes et chez les femmes avec donc Thomas Goyard et Charline Picon. Du côté des médailles de bronze, on a donc l'équipe féminine de basket qui a décroché donc ce bronze. En cyclisme sur piste, on a eu donc une victoire lors de l'américaine avec donc Grondin et Thomas, mais également dans la vitesse par équipe avec Elal, Gringbo et Vigier. Du côté de l'équitation également avec notamment l'Angevin Nicolas Touzin qui est d'ailleurs le seul Angevin à décrocher médaille à ces Jeux, qui a donc remporté la médaille avec Karim Lagouag et Christopher Six. C'est quelque chose d'assez inattendu, hein. J'en parlais il y a deux semaines, hein. C'était une équipe rafistolée et qui a pourtant ramené une médaille à la France. On a également donc chez le sabre femme Manon Brunet, la lyonnaise qui a remporté donc la médaille de bronze. En judo, la légende Teddy Riner qui a eu, on va dire, j'imagine que vous en avez parlé la semaine dernière, oui, les gars, longuement. Donc on a cette désillusion, puis cette bronze.
On a expliqué un peu le pourquoi de cet échec.
Effectivement. Et puis on a également en judo Romain Dicot qui est également très attendu. Et puis celui qui a été donc le premier médaillé français de ces Jeux, c'est Lucas Mekedz qui avait donc décroché le bronze lors de ce premier jour d'Olympiade. On a également Taekwondo Althea Lorrain qui a remporté donc cette médaille de bronze dans les plus de 67 kilos. Le triathlon qui avait déçu beaucoup en individuel a remporté le bronze lors du relais mixte avec donc Vincent Louis notamment. Et puis au niveau de la voile, on a également Retornaz et Lecointre qui ont décroché donc ce fameux bronze en 470 femmes. On a eu pas mal de médailles, donc c'est vrai qu'à toutes les dires, on a l'impression qu'on en a beaucoup. Mais par rapport à Rio, c'est vrai que le bilan est pas fameux.
Non. On est à 33 cette année, ce qui fait qu'on était 8e nation. Et à Rio, on avait 42 et on était 7e.
Et il faut dire un truc également, c'est que ces fameuses médailles d'or, notamment les trois dernières, ont été un peu cherchées à l'arrache. Et qu'une médaille d'or en moins aurait pu nous classer 11e du classement. Oui, ça aurait pu être une dégringolade. Heureusement que les handballeurs et volleyeurs et handballeuses donc sont allés chercher donc l'or olympique et donc on a pu se classer donc cette fameuse 8e place d'un bilan.
Après voilà, faut
bien sûr, faut
ce classement là ne veut
rien dire.
C'est juste en fait en nombre de titres qu'il est basé, et forcément des nations comme les trois premiers voire les quatre premiers, on a le Japon, on a les États-Unis, on va voir la Russie, ce sera plus simple, et je sais plus le troisième, mais
et par exemple
ils ont quasiment au moins un athlète dans chaque discipline, donc
ça, effectivement.
Proportionnellement il y a plus de chances d'avoir des médailles.
Le fait que les titres jouent beaucoup, notamment je vois sur quand je déroule le classement, l'Ukraine qui est donc 44e avec 19 médailles et donc 12 en bronze, 6 en argent et 1 en or, et donc c'est pour ça qu'ils sont classés si bas. Mais effectivement voilà, on retrouve au devant de la scène toujours les États-Unis, la Chine et le Japon, et la Grande-Bretagne et la Russie, en tout cas le comité olympique russe, qui s'est classé donc 5e. Effectivement, est-ce qu'on peut dresser un constat mitigé pour l'ensemble de ces Olympiades? On sait qu'on a eu beaucoup de déceptions.
Ouais, alors il y a des exceptions qu'on n'avait pas vu venir. Ça s'est joué à pas grand chose. Il y en a, c'était, j'ai envie de dire, prévisible. Je pense notamment au niveau de l'athlétisme. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu des gros soucis en amont avec la fédération. On n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais notamment, il y a quand même, par exemple, à la perche féminine, où il y a eu un gros couac. et je reste poli en disant gros couac, puisque normalement on avait une athlète qui était qualifiée depuis 2 ans. Elle avait fait les minima pour y aller. Et à la dernière minute, on lui a dit, bah non, tu resteras à la maison. Donc, on va pas revenir sur l'affaire, parce que bon, et là, ça changera rien. Mais voilà, déjà, au niveau de l'athlétisme, ça partait mal, sauf avant Tokyo. Ensuite, sur place, moi, j'ai trouvé que même dans les premiers tours, on n'était pas forcément performant. On a eu du mal quand même des fois à se qualifier pour aller en demi-finale. Puis après, il y a des choses qui me dérangent. Les gars, ils sont suivis, parce que c'est surtout en athlétisme masculin que j'ai vu ça. Le nombre de blessures.
Ouais, c'était impressionnant.
Enfin, ou pseudo blessure au final, on sait pas trop, parce que quand on voit Lavinini qui arrive avec déjà une entorse.
Ouais. Bon, bah, et du coup, il s'est blessé pendant le changement.
Voilà, après, oui. Mais bon, il se blesse une deuxième fois à la finale, à l'échauffement, il se fait une deuxième entorse. Bon, déjà, qu'il soit en finale, j'étais déjà content pour lui, parce qu'au vu de son parcours cette année, ouais, très difficile, c'était déjà beau. Mais comment ça se fait qu'il arrive avec une entorse, je veux dire, hein. On devrait quand même surveiller un peu plus la... Alors, ça peut arriver très vite, hein, mais là, c'est pas une entorse, genre il est arrivé, il a descendu de l'avion, paf, l'entorse. Non, c'était quand il est parti, apparemment il l'avait déjà. Donc voilà, on prend en marche. Pareil, on sait que Diniz est très fragile. C'est un ovni, hein, dans sa discipline. Mm-hmm. Il a été champion
du monde.
Du monde. Et encore, j'ai un doute.
Si, il est champion du monde.
Il a eu en tout cas le record du monde.
Ouais.
Et on sait qu'à chaque JO ou grands événements, il y a toujours un truc qui cloche. Alors des fois, c'est des problèmes de santé, parce que bon, c'est des conditions pas évidentes de faire des 50 km en marche, ça pose une rigueur, tout ça. Mais il y a aussi, je pense, un abcès psychologique. Et pareil, il n'y a pas de... En amont, il n'y a pas l'air d'avoir eu une préparation pour ça.
Notamment aussi pour Kevin Mayer, qui a été blessé au dos,
oui,
et qui a dû abandonner le titre, et il s'en est remis à des performances incroyables pour aller chercher la médaille d'argent.
Mais c'est pour ça que sa blessure au dos, moi je me suis posé la question si c'était pas un moment une blessure diplomatique, parce qu'il sentait pas le coup.
Bah, tu crois ?
Je sais pas, c'est parce que... Il y a eu cette coupure, bon, où il a pu se faire masser, remettre en place tout ça. Mais quand il derrière, ça a débloqué des choses. Alors soit il y avait sa peur de l'échec, hein, ça on savait qu'il l'avait aussi. Mais en tout cas, ouais, au niveau athlétisme, je pense qu'il va falloir revoir des choses. Et puis peut-être revoir aussi les méthodes de sélection. Peut-être qu'on n'avait pas forcément les meilleurs. Ceux qui ont fait les quotas avaient peut-être pas finalement les meilleures performances au jour J, et
grosse déception.
Voilà, ouais. Et on peut faire, je vois le même bilan pour la natation.
Exactement.
La natation, c'est exactement le même principe.
Disons que voilà,
bon, après il y a des
on a eu nos champions à une époque, et aujourd'hui
c'est
on est dans un creux, quoi. comme au tennis, comme dans pas mal de sports. Il y a eu des grosses déceptions, je pense, on va dire, à des disciplines moins connues, qui pourtant, eux, avaient des grosses espérances, notamment, j'avais déjà parlé du triathlon, du VTT, avec donc des grands favoris.
Là, le VTT, ça ne joue à pas grand-chose,
ça joue à une chute.
C'est vraiment une chute, voilà.
Ouais, mais voilà. Et on avait également Samir Aït-Saïd, hein, qui s'est blessé également durant ces Jeux. On avait l'escalade, aussi une blessure pour, notamment, je crois que c'est Bassam Awem, qui se blesse, et c'est donc son frère Michael qui a échoué en finale de peu. Mais effectivement, ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de Français favoris dans leur discipline qui ont qui ont, on va dire, flanché, qui n'ont pas assumé leur rôle. Mais en tout cas, quelque part, on se dit qu'on a quand même on avait des chances et c'est quelque chose de positif parce que à Paris 2024, il y aura du public et il y aura du public en notre faveur. Et je pense que après, je sais pas si tu as entendu ça, Cédric, mais l'objectif des 80 médailles à Paris 2024, ça reste vraiment, vraiment.
C'est compliqué, parce que là, l'objectif était de 45, même 45. D'imposer un quota de médailles, je trouve ça ridicule.
Oui, c'est vraiment.
Parce que, selon les disciplines, tu peux pas comparer.
Ça sert à rien de donner.
C'est un concours de celui qui aura la plus longue au final.
Non, ça, puis même surtout, donner un truc de médaille, c'est un truc de. C'est pas les gens qui sont sur le terrain qui donnent un objectif de médaille. C'est quelqu'un qui dit, oh, bah tiens, cette année, on ferait bien.
Objectif, c'est d'aller la chercher, mais
de faire briller entre guillemets la France. Mais
c'est ça, mais voilà, enfin, ils ont pas besoin qu'on leur dise oui, il faut qu'à la fin des JO, toute l'équipe de France.
Du coup, l'objectif des 80 médailles aux JO de 2021, je crois que c'était pas Roxana Maracineanu qui avait.
Possible.
Mais en tout cas, 80 médailles, ça me paraît quand même assez impossible.
Après, c'est.
Parce que là, si on regarde le classement de cette année, il n'y a que deux pays qui arrivent à dépasser les 80 médailles, c'est la Chine et les États-Unis. C'est énorme, hein, 80 médailles.
Ah, ce qu'il faut pour comparer, c'est le chiffre du Japon.
Le Japon, 58 médailles.
58 médailles.
27 en or, hein, ça change beaucoup de choses. Hein.
Ça veut dire que. Enfin, ça n'a pas changé. Normalement, quand tu reçois les JO, tu es qualifié dans toutes les disciplines.
Forcément, effectivement, on l'a vu, j'avais vu également passer, mais forcément, on le voit chaque année, chaque JO plutôt. On a une surperformance de l'équipe qui reçoit parce que déjà, demain, effectivement, comme tu disais, ils sont engagés dans tout ce qui amène à une médaille. Il y a forcément un membre du pays qui est là. Et effectivement, évidemment, il y a public, même s'il n'était pas là pour le jeu de Tokyo. Mais effectivement, il y a pas mal de choses.
On voit que le Japon fait 58 médailles.
Ouais.
Malgré ça, donc en demander 80.
C'est vraiment utopique.
Il va falloir aller chercher. Il y aura des nouvelles disciplines. Il y en a peut-être qui vont disparaître. Hein, comme la boxe, qui je pense va être encore en sursis.
Oh, la boxe, également, c'est un autre échec de ces JO pour les Bleus.
Bah, c'est surtout un échec du CIO.
Injustice sur injustice. Ça paraît vraiment. Bizarre comment la boxe est gérée aux Jeux Olympiques. Beaucoup de boxeurs ont gueulé après. Chaque boxeur qui s'est fait éliminer vraiment pestait contre les jurys. Et c'était vraiment quelque chose à corriger, sachant qu'on sait que c'est aussi quelque chose qui avait été mal géré auparavant. Ouais, notamment,
ça fait des années. Là, il y avait un espoir parce que c'était repris par le CIO.
Ouais. Et au final,
il y a eu encore des beaux couacs, quoi. Mais à côté de ça, on a quand même, dans l'optique de Paris 2024, on a quand même des jeunes qui étaient là pour leur premier JO, qui ont fait des résultats souvent intéressants, encourageants. Je crois que c'est au tir à 25 mètres. J'ai plus son nom à cette jeune fille, je crois qu'elle a 19 ans.
Effectivement, ouais.
Qui finit, je crois, 5e, 6e de son concours.
Il y a plein de choses,
championne d'Europe. Ouais. Enfin, voilà. En skateboard, on a vu. Ça se joue à pas grand chose, mais voilà. C'est une génération qui monte. Je pense au surf. Au surf, on fait une contre-performance. Mais lié à la qualité de la vague, vu le spot qu'on aura normalement
à
Tahiti, c'est un spot qui est connu pour avoir des bonnes vagues avec pas mal de tubes, donc on aura plus de surf agréable à regarder. C'est vrai que c'était un peu décevant à regarder, mais c'était intéressant. comme ça. Il y a eu quoi dans les jeunes qui peuvent monter,
enfin, bah, il y a le BMX, hein, je sais
il y a le BMX, oui.
On a eu de chances de médailles, malheureusement. Il y a eu une chute du grand favori.
Ouais.
Mais effectivement, on a plein d'espoir pour 2024. Il faut pas oublier que il y a pas mal de jeunes qui ont commencé. Voilà, en tout cas, la formation des jeunes pour 2024, elle a commencé il y a des années déjà, et elle continue. Et en tout cas, là-dessus, on peut quand même entre guillemets féliciter toutes ces instances-là du sport français. En tout cas, toutes les fédérations qui mettent tout en place pour former comme il faut tous les jeunes et qui ont tous quasiment pour objectif Paris 2024 et briller là-bas.
Et puis, il faut espérer, voilà, qu'en termes d'équité sportive, bon, c'est vrai que c'était une Olympiade un peu spécifique parce que, bon, avec une année de décalage, ça a fait que certaines disciplines, du coup, avaient déjà fait leur quota, avaient déjà leur personne de prévue pour il y a un an. Mais ça a permis aussi des choses qui sont un petit peu discutables, comme des athlètes qui n'étaient pas qualifiés normalement pour les JO, pour suspicion de dopage. Et qui se sont retrouvés finalement parce qu'ils avaient purgé leur peine, et l'année suivante, bah, ça tombait sur les JO qu'on a le droit de le faire. J'avoue que là-dessus, c'est un petit point aussi, voilà, qu'il faudra améliorer, je pense, pour 2024, quoi.
On va terminer donc cette page JO. Je vais vous faire une petite chronique sur les performances des sports collectifs au sein donc de ces Jeux Olympiques. Avant le début de ces JO de Tokyo, j'avais dit pendant une des émissions que les épreuves qui allaient le plus m'intéresser notamment allaient être celles des sports collectifs, grâce au fort potentiel de chances de médailles en football, en basket, en handball et en volley. Malheureusement, le premier de ces quatre sports a connu une désillusion terrible en s'arrêtant au stade de la phase de poule, et c'est un euphémisme de dire que l'équipe de Sylvain Ripoll n'a pas proposé un football époustouflant. Je sais que Max ne me contredira pas là-dessus. Une défaite inaugurale face aux vaillants mexicains, une victoire à l'arraché face aux surprenants sud-africains et une violente humiliation 4-0 face aux autres japonais. Avec tout le bruit autour de cette sélection controversée, la déception a été donc contrastée par une attente beaucoup moins importante que lors de la qualification notamment des espoirs à l'Euro 2019. Au contraire des footballeurs, les basketteurs français ont d'emblée impressionné grâce à des débuts tonitruants. Confrontés à la Dream Team américaine, les Bleus sont parvenus à réitérer leur exploit du Mondial 2019 en venant à bout de la sélection emmenée par Kevin Durant avec cette victoire donc 83-76. Et quand on a battu la meilleure équipe du monde, l'Iran et la République tchèque, semble alors une formalité pour les joueurs de Vincent Collet qui ont donc surmonté ces obstacles avec maîtrise. En quart de finale, malgré une légère frayeur en fin de match, les coéquipiers d'un Evan Fournier taille patron disposent de l'Italie 85-74. En demi-finale, c'est au tour d'un autre taulier de l'équipe de France de faire parler de lui en effectuant un des gestes qui restera gravé dans l'histoire du basket français au JO. Alors que la France mène d'un point et que les Slovènes ont l'ultime possession du match, Nikola Batum met fin au rêve des partenaires de Luka Doncic en réalisant un contre parfait sur la tentative de layup de Prepelic à la dernière seconde. Après cette performance majeure, la finale promettait d'être énorme avec un remake de leur premier match face aux États-Unis. Il fallait donc se lever tôt pour assister à l'une des finales les plus attendues depuis longtemps aux Jeux Olympiques. Malheureusement, les Bleus ont déchanté en finale malgré une bonne prestation. Ce tournoi aura malgré tout été celui de la révélation et des promesses pour une équipe de France qui s'affirme comme une des meilleures équipes du monde et qui pourra aller chercher enfin peut-être un titre olympique dans 3 ans à Paris. Des titres olympiques, l'équipe de France masculine de handball en est désormais habituée. Après Pékin et Londres, c'est dans la capitale japonaise que les experts ont décroché leur 3e couronne au jeu. Après la déception de l'argent à Rio, les partenaires d'un Nicolas Karabatic convalescent après sa longue blessure au genou, se sont vengés de la défaite en finale face aux Danois en 2016. Cette fois, le match a basculé en la faveur des Français qui remportent donc leur premier titre majeur depuis le Mondial 2017. Les multiples excellentes performances d'un Vincent Gérard étincelant ont permis à cette nouvelle génération de passer un cap par rapport à la dernière Coupe du Monde, notamment en janvier dernier, je vous en avais longuement parlé. Des excellents portiers sont indispensables à la conquête d'un titre majeur et notamment leurs homologues féminines l'ont également prouvé. Le duo Darleux-Leno a une nouvelle fois brillé à l'occasion notamment de la dernière compétition en bleu d'Amandine Leno, 35 ans et bientôt retraitée internationale. La numéro 12 des Bleus a notamment signé une performance majuscule en quart de finale face aux championnes du monde néerlandaises en réalisant près de 22 parades. Un match incroyable salué d'un 10 sur 10 par le journal L'Équipe. Sur le terrain, la jeune Pauleta Foppa a réalisé une finale de patronne du haut de ses 20 bougies, encore un synonyme d'espoir important pour les Jeux de Paris en 2024. Le troisième titre olympique décroché par un sport collectif est à mettre à l'attribut d'une discipline souvent mise de côté sur la scène du sport français, le volleyball. Après des Jeux de Rio ratés, la team Yavbou voulait faire très bonne impression pour la dernière compétition de Laurent Tilly en tant que sélectionneur des Bleus. La compétition avait pourtant très mal démarré avec une première déculottée 3-0 face aux États-Unis ainsi qu'une déconvenue fâcheuse contre l'Argentine. Placés dans le groupe de la mort, les Bleus ont dû puiser dans leurs ressources pour vaincre la Russie et accrocher 2-7 au Brésil, deux cadors du volley mondial. Une fois qualifiés en quart de finale, l'exploit fut de taille face au double champion du monde polonais que les Bleus écartèrent 3-7-2. En demi-finale, la revanche face à l'Argentine tourna à la démonstration pour les Bleus, tandis que les Russes, eux, ne purent pas se venger donc en finale face à une équipe de France impressionnante. Cette finale au suspense insoutenable restera légalement gravée dans l'histoire du volley français qui décroche en cette nuit Tokyo Heat son tout premier titre olympique. Le collectif tricolore a su s'élever à un niveau rarement aperçu chez les Bleus grâce notamment à Jean-Patry, Trevor Klevno, Antoine Brizard et son geste fou en finale. Et ou encore évidemment le meilleur joueur du monde, Erwin Engapet. Et puis également, je terminerai en soulignant également et en félicitant l'équipe de France féminine de basket qui est allée chercher le bronze face à la Serbie. On rappelle qu'elles sont vice-championnes d'Europe et qu'elles ont dû, elles ont su rebondir pour aller chercher cette médaille de bronze après une défaite en demi-finale face au Japon. Voilà, effectivement, Cédric, voilà, j'en ai effectivement longuement parlé. Toi, quelle est la performance que tu as le plus retenue dans ces sports collectifs français ?
En termes d'intensité et d'émotion, je dirais le sacre des volleyeurs. Mmh. Parce que clairement, je pense que personne ne les voyait là.
Ouais. Ils ont déjà eu du mal à se qualifier pour les Jeux Olympiques.
Et puis, les filles du rugby aussi.
Ouais, il faut le souligner aussi. Ouais.
C'est pareil, elles font une belle finale quand même. Hein. Bon, ouais, elles tombent contre les Néo-Zélandais.
Ouais, qui paraissaient plus forts.
Voilà,
il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, enfin, pas quelques erreurs, mais en tout cas, un arbitrage sévère pour les Françaises en finale.
Ouais. Puis après, il y a dans les mentions encourageantes, il y a le basket à 3.
Oui, effectivement.
Avec les filles
qui sont arrivées en quatrième place,
mais qui ont eu une demi-finale compliquée contre les Américaines. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a peut-être eu une petite erreur d'arbitrage qui aurait pu faire... soit qu'on gagnait le match ou qu'il y aurait une prolongation. Mais voilà, c'est des choses encourageantes. Les patrons, on va dire, habituels, ils ont fait le taf. Hein. Pourtant, le hand féminin, pareil, je ne les voyais pas favorites sur ces Olympiades, hein, parce que quand on voit le parcours difficile qu'elles ont eu récemment, même chez les gosses, c'était compliqué. Hein. On avait vu les matchs de préparation. Enfin, Donc non, ouais, belle histoire pour les sports collectifs. Ouais. Hein,
c'est... Pas mal de grosses surprises, pas mal de résultats inattendus, notamment pour ces tricolores. On va rendre l'antenne, hein, puisque voilà, il est 20h59 et que notre temps est désormais compté. On vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une émission donc de Génération Sport. On parlera évidemment de toute l'actualité sportive. On jettera également un œil du côté des Jeux paralympiques de Tokyo qui vont débuter
en 13 jours.
Oui. Effectivement, le 23 août, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, on gardera un œil sur ces fameux Jeux paralympiques, notamment avec des Angevins engagés dans ces Jeux. Voilà Cédric, on se quitte avec le générique de fin et puis on se dit à la semaine prochaine.